Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et Jean-Marie Colombani, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va porter aujourd'hui sur le mouvement syndical, le mouvement social. Quel est l'état des forces? Est-ce que les syndicats ont vraiment gagné quelque chose à cet épisode qui n'est d'ailleurs pas fini de la réforme des retraites? Et nous avons pour ausculter tout cela, cette réalité qui est un des éléments clés du dialogue social et donc de la démocratie, Pierre Ferracci qui est un spécialiste de ces questions et qui dirige un groupe qui s'appelle CECAFI Alpha, plutôt Alpha désormais d'ailleurs. CECAFI, c'est une institution, c'est un organisme qui aide la plupart du temps les comités d'entreprise quand ces comités d'entreprise sont face à des restructurations, à des problèmes lourds. Et Alpha, c'est au fond la même chose, j'imagine, Pierre Ferracci, du côté des entreprises.
Oui, on a une branche qui travaille beaucoup avec les collectivités et les entreprises sur des sujets un peu semblables de transformation des organisations, de restructuration, d'accompagnement aussi dans le retour à l'emploi pour les salariés concernés par ces restructurations.
Et j'imagine que vous avez aussi une réflexion sur le travail, puisque ça va être dominant dans les années qui viennent, dès maintenant, mais aussi...
C'est au cœur de nos pratiques, notamment avec l'éloignement aujourd'hui de certains salariés, non pas du travail, mais de certaines formes du travail aujourd'hui qu'ils n'acceptent plus, ou en tout cas moins qu'avant.
Alors donc nous sommes toujours plus ou moins dans cet épisode entre guillemets des retraites, de la réforme des retraites. La loi a été votée, elle doit entrer en application et en même temps les syndicats continuent à contester. Donc on est quand même dans un schéma assez particulier avec l'attente de cette échéance du 8 juin, c'est-à-dire une proposition de loi qui tente à abroger la réforme des retraites. Mais auparavant, on voulait peut-être faire un état des lieux parce que au point de départ, on savait qu'Emmanuel Macron voulait enjamber en quelque sorte ou passer par-dessus ou négliger les corps, ce que l'on appelle les corps intermédiaires, donc les syndicats. Et il lui a été reproché, notamment par Laurent Berger, de privilégier la recherche d'un accord politique avec la droite, qui n'a pas eu lieu d'ailleurs, ou qui n'a pas porté ses fruits plus exactement, parce qu'il y avait eu un accord entre états-majors, et plutôt que la recherche d'un compromis avec les syndicats. Donc, ces syndicats aujourd'hui, comment les regardez-vous, Pierre Ferracci? Peut-être, je vais d'abord, avant de vous poser des questions, laisser Jean-Claude vous interroger d'ailleurs. Jean-Claude Casanova.
Oui, je voudrais poser la question suivante, parce qu'au fond, on dit que c'est une bataille sociale, mais c'est, je crois, essentiellement une bataille politique. Alors, si on compare la France aux autres pays européens, on part relativement jeune en France à la retraite, plus jeune qu'ailleurs. Ensuite, les pensions sont élevées en France, c'est-à-dire si on mesure le rapport entre les pensions et les revenus d'activité, la différence est moins grande en France qu'ailleurs. Mais le système français est déficitaire pour les raisons qu'on connaît, c'est-à-dire que le nombre des retraités s'accroît par rapport plus rapidement que le nombre des actifs. Alors, le gouvernement dit non à la réduction des pensions. D'ailleurs, là-dessus, l'opinion publique l'approuve. Le gouvernement dit non à l'accroissement des cotisations ou à l'accroissement des impôts Et il dit oui. Au fond, il y a deux axes dans la réforme gouvernementale. C'est accroître le volume de travail. Les gens travailleront davantage, de 2 ans de plus en moyenne. Et cela permettra de réduire le déficit. Alors, le conflit est sur cette logique, c'est-à-dire que les syndicats, qui sont plus unis qu'ils ne l'ont jamais été, s'appuient sur l'opinion et sur les manifestations. Ils s'appuient très peu sur les grèves. Si on regarde ce qui s'est passé, il n'y a pas eu de mouvement d'amplitude des grèves, de mise à genoux du pays, comme on dit, etc. Le rapport de force, comme on dit, a porté essentiellement sur les manifestations et l'opinion, avec comme idée, nous sommes majoritaires dans l'opinion, et les manifestations le démontrent, donc le pays légal, c'est-à-dire le Parlement et le pouvoir exécutif, doivent s'incliner devant le pays réel, qui est le pays que traduit les manifestants et les sondages d'opinion. Alors, je comprends que ça soit la stratégie des syndicats, parce que c'est une stratégie qui a réussi dans le passé. L'archétype ayant été Jacques Chirac, pratiquement le pouvoir législatif, à certains moments, a appartenu aux manifestants. Il y avait la Constitution, et puis il y avait la réalité politique qui faisait que les manifestations ou les syndicats, à plusieurs moments, si vous voulez, vis-à-vis de Juppé, vis-à-vis d'autres, il y a même eu une loi, ce qui est devenu célèbre dans le droit constitutionnel, puisqu'elle est votée, admise, et qu'elle est révoquée ensuite par le même président de la République qui l'avait fait voter, sur l'influence des manifestants. Simplement, cette fois-ci, et c'est la caractéristique de Macron, il n'a pas cédé. Donc on est dans une espèce d'impasse, si vous voulez. C'est que les syndicats, parfaitement unis, s'appuyant sur l'opinion, se sont érigés en pouvoir, et le pouvoir a perdu cette partie, et personne ne se réconcilie. Alors ce qui se passe au Parlement actuel, c'était une manœuvre politique, si j'ose dire. C'est strictement politique. Les syndicats espèrent, sans doute, mais ne sont pas à la manœuvre. C'est Monsieur de Courson qui veut faire voter une loi qui annule tout ce qu'il a défendu depuis 25 ans. Ça, il faut... L'esprit de contradiction mène à cette forme d'héroïsme, si vous voulez. Et donc, la question que je voudrais poser à Monsieur Ferracci, qui connaît bien le monde social, c'est que peuvent faire aujourd'hui les syndicats? Parce que doivent-ils accepter cette défaite et chercher des négociations par ailleurs? Comment estime-t-il l'état des forces? Est-ce que la stratégie sera la même du côté de la CFDT et du côté de la CGT? La CFDT a beaucoup gagné en autorité morale, sociale et politique. La CGT a été sur la même ligne, mais l'une et l'autre changent de direction. Comment voit-il, au fond, dans cette situation, comment voit-il le front syndical?
Pierre Ferracci.
Oui, alors, simplement pour revenir sur l'analyse de Jean-Claude Casanova, c'est vrai qu'on veut créer plus de richesses en faisant en sorte qu'il y ait plus de travail et de personnes au travail dans le pays. Les syndicats ne sont pas totalement opposés à ça. Simplement, s'il fallait résumer leur position, au lieu d'allonger le temps passé au travail avec un déport de l'âge légal de 2 ans, je précise d'ailleurs que l'âge de départ réel n'est pas aussi éloigné que ça de certains pays voisins. Il y a des différences sur l'âge légal, mais il y en a moins sur le départ réel à la retraite. Mais les syndicats posent un problème qui est maltraité en France et depuis longtemps, qui est le taux d'emploi des seniors. Et quand je dis des seniors, pas de 60 à 64 ans, mais plutôt de 55 à 64 ans. Et on a un déficit considérable, comme pour les jeunes d'ailleurs, par rapport à certains pays européens. Et c'est vrai qu'en relevant ce taux de cette proportion de seniors au travail, on règle aussi une partie du problème que vous évoquez. Dans les pays du Nord, et je cite souvent l'exemple de la Finlande, avant de déporter l'âge légal de 2 ans, d'ailleurs de passer de 62 à 64 ans comme chez nous, le gouvernement a demandé aux partenaires sociaux pendant 5 ans de travailler sur les conditions de fin de vie professionnelle des seniors, pour les aménager, pour rendre le travail plus facile. Ça a été un grand sujet national, d'ailleurs, où on disait d'ailleurs à l'ensemble de la population, nos aînés vont devoir travailler davantage, mais il faut les aider en aménageant les conditions de travail. Au bout de 5 ans, on a attendu encore 2 ans avant de déporter cet âge légal. Donc on a travaillé de façon positive pour rendre le travail plus attractif, en tout cas dans certains métiers. Et au passage, d'ailleurs, on a aussi traité les questions de pénibilité, parce que dans certains métiers, même arrivé à 60 ans, est extrêmement pénible. Chez nous, au lieu de faire ce travail-là en amont, on y pense maintenant, la question du travail est sur toutes les lèvres, on se contente effectivement régulièrement de déporter l'âge légal. C'est ça l'opposition des syndicats. Et pour répondre à votre question, effectivement, les syndicats, plus unis qu'ils ne l'ont jamais été. Alors effectivement, la CFDT, Laurent Berger, a tenu le leadership. C'est paradoxal d'ailleurs, parce qu'en règle générale, la CFDT accompagne ce type de réforme. Et là, au moment où son leadership n'a jamais été aussi important, même si les autres syndicats jouent leur partition, Emmanuel Macron et le gouvernement l'ont laissé de côté. Et on fait en sorte que l'intersyndicale, encore une fois, soit plus unique que jamais. Pourquoi la raison pour moi est assez évidente. Quand on a une majorité relative et pas une majorité absolue, on va chercher un accord politique. En l'occurrence, on va le chercher avec les Républicains. Et le terrain des retraites était peut-être le plus facile, puisque les Républicains demandaient le départ à 65 ans, tous unis. Il y en a effectivement qui ont corrigé le tir depuis. Bon, ils n'ont pas obtenu cet accord parce que tout le monde a déjà les yeux rivés sur l'échéance de 2027. Et ils sont mis à dos tous les syndicats. Et surtout, l'autre chose, à mon avis, qui a compromis la possibilité d'arriver à un compromis, c'est que toutes les fenêtres de la négociation étaient fermées. Vous l'avez dit, Jean-Claude Casanova, on touche pas aux cotisations, on ne relève pas les impôts. Enfin, toutes les possibilités qui ont été utilisées d'ailleurs dans d'autres pays, auxquelles d'ailleurs certains ne croient pas, les impôts seront relevés dans les années qui viennent. Pas simplement parce que le régime de retraite est en déficit, mais parce qu'on a 3000 milliards de dettes et qu'à un moment donné, annoncer ad vitam aeternam que les impôts ne bougeront pas, je pense que les Français n'y croient pas. Donc toutes les fenêtres sont bloquées et à partir de là, ben, on a eu un mouvement syndical soudé qui va le rester au moins jusqu'au 8 juin. Alors on dit oui, mais la loi a été votée, elle est promulguée, le 8 juin, on me parle de Courson effectivement, qui règle peut-être que quelques comptes anciens. Mais le 8 juin, on va utiliser une possibilité du côté des syndicats qui est très claire pour les Français. L'Assemblée n'a jamais voté sur la réforme des retraites. Avec un peu d'humour, je disais récemment chez un de vos confrères que il y a au moins un point commun entre la France insoumise et Renaissance, c'est que les deux ont empêché le vote sur la réforme des retraites, les uns avec 20 000 amendements, qui a empêché le débat d'aller jusqu'au bout, et les autres en utilisant le 49-3. Mais le 49-3, c'est pas un vote sur la réforme des retraites, c'est décider si le gouvernement reste en place ou pas, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le 8 juin, c'est un rendez-vous à haut risque. Et jusque-là, même si les syndicats sont très preneurs d'un débat sur le travail, parce qu'on voit bien que le rapport au travail a changé depuis 40 ans, Jérôme Fourquet dit que le travail n'est plus un élément de centralité pour les Français. Il y en avait 60% qui disaient que c'était l'élément essentiel pour eux. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 20%, 40 ans après. Donc il y a vraiment un sujet autour du travail, autour des conditions de travail, autour de la qualité de vie au travail, qu'il faut traiter aujourd'hui. C'est de l'hommage qu'on ne l'ait pas traité avant de faire cette réforme des retraites. Ben maintenant, il faut éviter de perdre du temps et le prendre à bras-le-corps. Mais ça n'empêchera pas les syndicats de rester jusqu'au bout, à mon avis, relativement unis sur la réforme des retraites. Il y a en plus deux jeunes femmes qui prennent la tête des deux principaux syndicats, Sophie Binet à la CGT et Marie-Lise Léon à la CFDT. Je ne crois pas que ça va changer profondément les orientations des différentes confédérations, mais en tout cas, c'est un peu de sang neuf. Alors, la succession de Laurent Berger va être difficile à prendre du côté de la CFDT, mais Marie-Lise Léon est une femme de qualité. Mais je pense que les syndicats vont plus longtemps qu'on ne le pense rester, peut-être pas en intersyndical, sous la forme de l'intersyndical, mais en tout cas soucieux de manifester leur unité sur la question du travail demain, comme sur la question des retraites aujourd'hui, les deux étant liés d'ailleurs. La question des retraites est aussi une forme d'expression sur le travail de la part des Français qui massivement continuent à appuyer les syndicats.
Jean-Claude Casanova.
Oui, non, je suis d'accord sur deux points avec ce que vient de dire M. Ferracci. D'une part, il y a évidemment deux problèmes centraux à côté du problème des retraites, qui est l'emploi. Donc, augmenter le volume du travail, ça peut se faire pas seulement par la durée dans la vie du travail, mais dans le nombre de gens employés. Là-dessus, d'ailleurs, il y a une réussite de Macron. C'est le seul président de la République qui a réduit le taux de chômage. Et la réduction du taux de chômage peut aller plus loin. Et il serait heureux, d'ailleurs, que là, la négociation entre les syndicats et le gouvernement progresse. Mais il y a aussi l'accroissement de la productivité. Moi, je suis toujours frappé, je suis persuadé que la France pourrait faire des gains de productivité. C'est pas difficile, d'ailleurs, nous sommes les uns et les autres parisiens. À Paris, on crée une voie rapide pour que les gens en bus ou en taxi aillent plus vite, et puis ensuite, on met des trottinettes sur la voie rapide. Autrement dit, on réduit la productivité, c'est-à-dire quand vous livrez, les livreurs parisiens ont une productivité inférieure parce que la réglementation de la circulation dans Paris ne facilite pas la rapidité. Donc il y a d'énormes progrès de productivité que la France pourrait faire, et l'accroissement de la productivité, ça devrait être le travail commun, si j'ose dire, la coopération entre les syndicats ont intérêt à l'accroissement de la productivité, qui n'est pas nécessairement l'accroissement de la pénibilité. Si vous voulez, la productivité, ça implique le choix des matériels, etc. Donc il y a deux grands axes qu'on peut... Mais il y aura une unité syndicale, je suis bien d'accord avec Monsieur Ferracci, il reste que quand même les objectifs des deux principaux syndicats sont différents. Pas loin de chez moi, il y a une permanence de la CGT, et quand je passe devant, il y a une affiche qui dit la retraite à 60 ans, c'est possible. Et la CFDT n'est pas sur cette ligne. D'une certaine façon, la CFDT avant, avec le système à points qu'elle recommandait, a accepté une évolution de l'âge de la retraite simplement sans la formulation d'âge limite. Et donc, malgré tout, sur le fond, j'ai l'impression que la CGT et la CFDT, pour prendre uniquement ces deux cas, sans parler des autres, sont sur deux lignes différentes.
Commentaire sur Radio Classique.
Nous sommes avec Pierre Ferracci, président du groupe Alpha et spécialiste des questions sociales et qui connaît comme sa poche, si j'ose dire, les syndicats et leurs ambitions. Dans ce qui a été dit tout à l'heure, et par vous-même et par Jean-Claude Casanova, il y a l'idée que, et d'ailleurs la nouvelle chef de la CGT, qui est donc une femme, Sophie Binet, elle a un discours très radical. Elle nous dit que les syndicats veulent aller jusqu'au bout. Et en même temps, sont proposées des discussions avec le gouvernement, notamment sur le travail, etc. Alors, c'est quoi ce jusqu'au bout? Est-ce que ça n'est pas, malgré tout, assez choquant de voir que, malgré le déroulement d'un processus légal et constitutionnel, etc., on ne se plie pas à la nouvelle loi et on cherchera jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, ça peut aller jusqu'où, Pierre Ferracci?
Mais pour l'instant, jusqu'au bout, c'est avoir toujours l'espoir de faire renoncer à la réforme des retraites du côté gouvernemental, notamment avec ce rendez-vous du 8 juin. Je reviens sur la question de la productivité qu'évoquait Jean-Claude Casanova. Pendant un temps, la France a compensé le fait qu'on travaillait un peu moins par rapport à d'autres pays par une productivité très forte. Après la mise en œuvre des 35 heures, de façon un peu généralisée, un peu brutale, et parfois avec pas beaucoup de discernement, c'est plutôt l'intensification du travail que la productivité au sens noble du terme qui a pris le relais. Ce qui explique d'ailleurs le rapport au travail qui a changé depuis 40 ans. Cette intensification a fait des dégâts sur le terrain. Sur le terrain des cadres aussi, pas seulement des ouvriers, des employés. Et les entreprises ont essayé de rattraper le coup imposé par la mise en œuvre des 35 heures, en intensifiant le travail et en augmentant la productivité. Pas toujours en réorganisant d'ailleurs de façon très dynamique le travail, mais en faisant en sorte que l'intensité soit au rendez-vous. C'est ça qu'on paye aujourd'hui. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ces gains de productivité ralentissent. Alors, il y a des effets naturels. Hein. Vous avez dit, Jean-Claude Casanova, que Emmanuel Macron avait, par rapport à d'autres présidents, gagné un peu la bataille du chômage. C'est vrai que le chômage diminue. C'est vrai en même temps qu'on reste avec ce problème des jeunes et des anciens qui n'est pas encore suffisamment traité. Et si le patronat a été relativement silencieux pendant cette réforme des retraites, c'est aussi parce que dans les entreprises, on s'est habitué à laisser partir les salariés sur le critère de l'âge, et parfois d'ailleurs aidé par la puissance publique.
Mais donc tous les plans de restructuration, oui, commencent toujours par des mesures d'âge.
Par des mesures d'âge, ben oui, mais
on le paye.
On le paye aussi aujourd'hui. Ça explique qu'entre 55 ans et 64 ans, il y a un taux d'emploi des seniors qui soit aussi faible. Et d'ailleurs, on retrouve beaucoup de seniors soit au chômage, soit du côté de l'assurance maladie, parce qu'il y a aussi quelques dégâts sanitaires. Puis il y en a qui prennent la retraite avec un système de pré-retraite qui n'est pas suffisamment développé chez nous. Bon, c'est ça qu'il faut traiter aujourd'hui. Alors, je reviens à cette question des divergences entre la CGT et la CFDT. Il faut quand même acter que peut-être que la CGT, pas partout d'ailleurs, mais réclame des choses que la CFDT ne réclame pas. Ils sont au moins d'accord sur le fait que l'allongement de la durée du travail et le passage de 62 ans à 64 ans n'est pas la bonne solution aujourd'hui. Ça, il faut au moins l'acter. Et ils vont rester sur ce plan-là, unis jusqu'au bout. Après, ils assument des divergences. Ils les assument, y compris dans les formes de lutte qui ont été employées dans la dernière période. Mais je crois qu'on aurait tort du côté gouvernemental de compter un peu trop sur une cassure entre les organisations syndicales. Elles ont compris, et l'opinion leur en sait gré, comme elle avait fait d'ailleurs pour les Gilets jaunes, qu'une forme d'unité du mouvement syndical est quelque chose de précieux pour les salariés, plus largement pour les actifs et pour les citoyens. Donc la sortie de l'intersyndicale va être un petit peu à haut risque pour les syndicats. S'ils reprennent leur cheminement tranquille de façon trop autonome par rapport à cette dynamique intersyndicale, je pense qu'ils y perdront déjà aux yeux de l'opinion. Donc ils sont tous attentifs à ça. Après, il y aura des divergences à gérer. Alors, je reviens sur la question de l'ouverture des négociations sur le travail. Je pense qu'ils vont essayer de faire les deux, de continuer à rester unis sur la question des retraites et en même temps d'ouvrir le champ de la négociation sur le travail. Le patronat a un grand rôle à jouer. Il a été, je dirais, relativement coupable dans la dernière période sur la prise en compte de ce critère d'âge pour les départs, notamment à l'occasion de restructuration. Il a un rôle à jouer sur le terrain des seniors. Certains patrons l'ont bien compris. Ils sont prêts à ouvrir des négociations et à faire en sorte qu'on corrige l'écart qui nous sépare des pays voisins, notamment des pays de l'Europe du Nord ou de l'Allemagne, qui ont traité le sujet avec un peu plus de vivacité, de dynamisme que nous. Donc il y a un enjeu qui ne concerne pas le gouvernement. La démocratie sociale aujourd'hui doit faire aussi des progrès. Elle n'est pas aussi vaillante que dans les pays voisins, même si je trouve qu'elle se porte un peu mieux, mine de rien, que la démocratie politique, avec le spectacle qu'on a eu à l'Assemblée, et ces espèces de contorsions qui sont en train de mettre à bas les institutions de la Ve République. Donc il y a un enjeu qui concerne le patronat, il y a un enjeu qui concerne le gouvernement. La vraie question est de savoir si par hasard, mais le hasard peut faire les choses, hein, demain, si le 8 juin, la réforme ne passait pas à l'Assemblée, comment réagira le président de la République et comment réagira le gouvernement ?
Oui, ça c'est une question à laquelle il est difficile de répondre. Et en effet, ça changerait la donne politique, bien évidemment. Mais en même temps, qu'est-ce que d'habitude on oppose la CFDT réformiste et la CGT non réformiste et plus radicale. Après ce qui s'est passé, est-ce que cette caractérisation a encore un sens ou bien est-ce que tout le monde n'est pas aujourd'hui embarqué dans une même protestation avec en toile de fond quand même une hostilité radicale au président de la République et une difficulté prévisible qui est de voir des syndicats arriver à Matignon pour la réunion avec la Première ministre et lui dire « Ah mais tant que vous ne retirez pas la réforme des retraites, on ne discute pas. On peut être bloqué comme ça pendant un temps indéfini. »
Alors moi j'ai toujours été un petit peu sceptique sur la distinction entre les réformistes et les protestataires ou les radicaux, parce que sur le terrain on voit bien que ça signe beaucoup et que par essence un syndicat cherche à améliorer la vie des salariés et donc cherche le compromis. Et quand la CGT signe 85% des accords dans les entreprises où elle est présente, on peut dire que la CGT en signe 92 ou 93%, mais la différence n'est pas essentielle. Il y a aujourd'hui unanimement une colère qui est portée et qui est celle des salariés. Et je suis d'accord qu'il y a aussi une hostilité vis-à-vis du président de la République, qui renvoie aussi à la façon dont il a traité les corps intermédiaires depuis le début du quinquennat. Et ça, tout le monde reconnaît, y compris parmi ses soutiens, qu'il y a sans doute des choses à corriger et à faire en sorte que la démocratie sociale soit un peu mieux respectée dans ce pays. Elle n'est pas à l'opposé de la nécessité des réformes qui doivent transformer le pays. Tout le monde est conscient qu'on a aujourd'hui entre la transition environnementale, la transition numérique qui continue à galoper, les enjeux de réindustrialisation que porte aussi le président de la République, mais pendant 20 ans on a désindustrialisé, il y a quand même des chantiers extrêmement lourds avec la question du travail qui doivent être portés par des compromis. Le président de la République avait eu une idée qui apparemment symboliquement paraissait une bonne idée avec son Conseil national de la refondation qui faisait allusion à ce qui s'était passé après la Deuxième Guerre mondiale, où le général de Gaulle avait rassemblé un petit peu tout le monde, des communistes aux démocrates bien chrétiens, sûr. Et aux syndicats, bien entendu, la CFTC et la CGT à l'époque. Bon, il y a peut-être quelque chose, un pacte social aujourd'hui, à remettre en place, qui tient compte de ces enjeux qui sont considérables. La transition environnementale va coûter très cher. Tout le monde est d'accord pour la protection de la planète, mais les enjeux financiers, les enjeux culturels, les enjeux de réorganisation de nos industries, de relance de l'industrie, sont colossaux. Qui va payer tout ça ? La question va se poser. L'Europe, l'État, les entreprises, les actionnaires, les salariés, les citoyens, ces questions-là devront être posées et ça peut faire l'objet d'un grand pacte social. Si on veut sortir de ce débat sur les retraites par le haut, bah, il faut peut-être écouter les syndicats sur ce qu'ils disent au travers de la réforme des retraites. Ils portent des enjeux essentiels sur la façon dont les citoyens, les actifs regardent le travail aujourd'hui. Il y a des choses à corriger à l'évidence. Et si on veut sortir par le haut également, il faut qu'on rassemble à la fois les forces sociales et les forces politiques. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'on n'en prend pas tout à fait le chemin et que la gestion un petit peu solitaire de cette crise sociale et de cette crise qui est aussi un peu démocratique, comme le disaient certains dirigeants syndicaux, on n'est pas prêt d'en voir la sortie si on continue comme ça. Donc pour moi, le rendez-vous du 8 juin, il est essentiel parce que derrière le 8 juin, quel que soit le vote de l'Assemblée, il faut rebondir pour le gouvernement. Il faut s'adresser, il faut tendre une perche aux organisations syndicales qui permettent de sortir de cette crise. Si le président de la République et si la première ministre ne le font pas, je pense qu'on est parti pour une crise larvée pendant des mois et des mois, et peut-être jusqu'à la fin du quinquennat, avec sans doute les échéances de 2027 qui vont profiter à des forces qu'on identifie bien aujourd'hui et qui sont tapis dans l'ombre, prêts à se saisir du pouvoir si on leur déroule le tapis pour y arriver.
On voit d'autant moins l'issue que la perche dont vous évoquez, pour les syndicats, la seule perche, c'est renoncer à la réforme des retraites. Alors pour Emmanuel Macron, c'est le cas de figure absolument impossible. Donc on risque d'être bloqué de cette façon. Jean-Claude Casanova, juste quelques mots de conclusion, car malheureusement, nous sommes au bout de notre...
Je suis pas en désaccord avec ce que vient de dire M. Ferracci. J'ajouterai simplement deux points. Le premier point, c'est la fragilité de l'économie française, notamment de son commerce extérieur. La France, le fait que la réforme soit approuvée par l'OCDE, l'OCDE et le Fonds monétaire international prouvent que la France va dans le bon sens par cette réforme. Et deuxièmement, l'incroyable fragilité politique. S'il y a un problème du 8 juin, c'est-à-dire s'il y a la possibilité que l'Assemblée nationale se ridiculise, c'est tout simplement parce que le Parti républicain n'est pas capable d'être un parti de gouvernement. Il s'étonne d'avoir perdu les élections précédentes, c'est-à-dire les partis de gouvernement ont disparu. Mais les partis de gouvernement, aujourd'hui, sont des partis incapables de gouverner. Autrement dit, si les députés républicains votaient tout simplement en fonction de leurs convictions, c'est-à-dire ils ont tous été partisans de l'accroissement de l'âge de la retraite, et pas en fonction de manœuvre, il n'y aurait aucun problème politique et l'affaire serait réglée depuis longtemps. Et la seule chose que je demande aux syndicats, que je trouve insuffisante, c'est de bien regarder la position relativement faible de l'économie française par rapport à l'Europe, par rapport à l'Allemagne et par rapport à l'Europe du Nord.
Voilà, c'est un débat que nous aurons l'occasion de continuer, j'espère avec vous d'ailleurs, Pierre Ferracci. Merci en tout cas de vos éclairages aujourd'hui. Je rappelle que vous présidez le groupe Alpha, qui est spécialisé dans les conseils, enfin, à qui on fait appel dès lors que l'on a des problèmes de restructuration, de
transformation, voilà. Aussi, de mutation et pas seulement de restructuration au sens négatif du terme.
Merci donc Pierre Ferracci d'avoir été avec nous. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de Commentaires.